voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Jean-Michel Herbillon et son épouse se sont rapidement posé des questions sur l'école et le système éducatif. Parents de 4 enfants, ils ont fait le choix de les scolariser dans une école Steiner. Dans cette émission La Voix du Kaizen, Jean-Michel partage avec nous ses réflexions sur l'éducation et nous emmène à la rencontre de la pédagogie Steiner.
Je suis Jean-Michel, je me présenterai volontiers comme un simple citoyen du monde et puis effectivement père de famille, père de 4 enfants. Notre famille est installée à Fréland, dans la vallée de Kaisersberg. C'est une jolie vallée vosgienne qui se trouve à côté de Colmar. Et c'est vrai que la question de l'éducation, du lien à l'enfance, a été quelque chose de très très prégnant dans notre parcours avec mon épouse. On s'est rencontrés, nous étions encore étudiants. Mon épouse est hollandaise. Et on a fait le choix à un moment donné de vivre en France après une période de séjour aux Pays-Bas. Et la question se posait de savoir où est-ce que nous allions nous installer en France. Le choix était assez ouvert à partir du moment où on pouvait se lier à une université. Et nous sommes venus nous installer en Alsace avec l'idée que si un jour nous avions des enfants, eh bien nous souhaiterions les mettre à l'école Steiner de Strasbourg.
Avant même d'avoir des enfants, tu pensais ou tu observais déjà ce qui se passe en termes éducatifs en France ou aux Pays-Bas ?
Ben c'est ça, c'est exactement ça. Il se trouve que mon épouse venait d'une école Steiner, a fait une partie de sa scolarité dans une école Steiner. Étant plus jeune, je ne connaissais pas du tout cet univers-là, donc j'ai rencontré cet univers en la rencontrant. Et à partir de là, on a vraiment nourri ce souhait, ce désir de pouvoir offrir cette éducation à nos enfants. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas d'enfants et ça allait encore tarder avant qu'ils arrivent. Donc on s'est installé à Strasbourg avec l'école Steiner en vue. On a commencé à la côtoyer, à aller à des activités diverses et variées qui nous ont permis de faire connaissance, enfin pour moi, de faire connaissance avec cette pédagogie et d'apprendre à l'apprivoiser. À la reconnaître au sens intérieur, hein, avec cette idée qu'à un moment donné, on est en correspondance, on se sent bien dans cet univers-là. Et puis, un petit peu plus tard, nos enfants sont arrivés, le premier est arrivé, et puis il se trouve qu'entre-temps, on a fait un choix de vie différent, on a quitté la ville, on a quitté Strasbourg pour venir s'installer en milieu rural, donc dans le Haut-Rhin, dans cette vallée vosgienne où nous trouvons actuellement. Et du coup, nos enfants ne sont pas allés à l'école Steiner de Strasbourg, mais ils sont allés à celle de Colmar. Voilà.
Et comment tu expliques qu'avant même d'avoir des enfants, tu t'étais déjà intéressé aux différents modes éducatifs ?
Bon, d'abord, la première chose, c'est qu'on n'était pas sûr qu'un jour on aurait des enfants. On n'était pas sûr qu'on aurait des enfants ensemble, mais on n'était pas sûr non plus qu'on aurait des enfants tout court. Donc les choses sont ainsi faites qu'on en a eu. La question de l'éducation, elle était assez fondamentale, en fait. Hein. Ça a été une façon pour moi de rentrer dans le contraste entre les deux parcours de vie qui avaient été les nôtres, entre mon épouse et moi-même. Elle, dans un univers où, effectivement, elle était donc enfant d'enseignants qui ont fait le choix assez facile aux Pays-Bas de mettre leur enfant dans une école alternative. Facile tout simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, il doit y avoir à peu près 120 écoles Steiner aux Pays-Bas. Donc c'est considérable pour un petit pays de 4 fois moins d'habitants que la France. Mais surtout, c'est un modèle d'éducation alternative qui côtoie d'autres éducations alternatives. Donc il y a énormément d'écoles qui présentent des pédagogies différentes. Il se trouve que ses parents ont fait le choix de l'éducation Steiner, mais ils auraient très bien pu la mettre dans d'autres écoles, naturellement aussi Montessori, Piaget, Freinet, mais également d'autres alternatives qu'on ne connaît pas en France. Donc en rencontrant cette famille, c'était de rencontrer un univers et finalement l'éducation était vraiment le mode d'entrée le plus concret pour pénétrer dans ce mode de réflexion, cette vision alternative sur le monde, l'humain, la société. C'était finalement le plus aisé pour moi pour rentrer aussi dans cette philosophie qui était posée par les préceptes de Rudolf Steiner, donc l'anthroposophie. L'anthroposophie a des côtés comme ça un peu mystiques, mais ou plus spirituels, mais aussi un volet beaucoup plus pratique. Donc naturellement l'éducation au travers de la pédagogie Steiner, hein, donc la pédagogie qui est enseignée, qui est proposée dans ces écoles Steiner, pour moi, c'était aussi un autre univers de découverte, par exemple le lien à la terre avec des procédés d'agriculture posés aussi à cette époque-là, qui étaient pour moi très très intéressants, révolutionnaires, la médecine, l'architecture. Et à chaque fois, c'était des volets vraiment très très concrets. Mais la première entrée en matière, c'était vraiment l'éducation, parce que ça me parlait directement. Et ça faisait grand contraste avec ce que j'avais pu vivre, moi, en tant qu'enfant élevé dans une famille plutôt traditionnelle en France, dans une école bien de la République et qui proposait ce que proposent les écoles, l'école publique française.
Ben, parlons un petit peu de ce modèle actuel, parce que la plupart d'entre nous, une grande partie de la population française, en passe tous par le système de l'éducation nationale.
Ce modèle de l'éducation nationale, quelques années plus tard, il se trouve que j'ai eu l'occasion de travailler à l'Institut d'études politiques. Je croisais aussi d'autres, alors moi j'étais doctorant, hein, mais je croisais des profs, et je me souviens d'une discussion avec un prof d'une quarantaine d'années dont le regard sur l'éducation, c'était de dire en gros, finalement, tes enfants sont pas tes enfants, les enfants sont les enfants de la République, donc c'est normal qu'ils aillent à l'école de la République. Une personne qui situait de façon très très véhémente à l'encontre des pédagogies alternatives, donc c'était difficile de trouver un terrain d'entente ou un terrain de discussion, mais ce qui est sûr, c'est que ce modèle de l'école de la République est toujours très très présent, il est formaté d'une certaine façon, il pose un regard sur ce qu'est un processus éducatif, mais il ne pose pas de regard sur ce qu'est un être humain. Et c'est ça qui fait toute la différence, parce que s'interroger sur une éducation, c'est avant tout s'interroger sur qui on va éduquer. Et à partir de là, comment on regarde l'homme, comment on regarde son devenir, quelle est l'essence, la quintessence de l'enfance. Ça, c'est vraiment des questions qui sont vraiment fondamentales. Est-ce que l'enfant est un être humain adulte en miniature, ou est-ce que c'est tout autre chose? Et qu'est-ce qu'on veut faire avec cet enfant au travers du processus éducatif qu'on va lui fournir, qu'on va lui proposer? Ce que j'ai trouvé captivant dans la pédagogie Steiner sur le plan théorique, dans un premier temps, puisqu'on était à une époque où nous n'avions pas encore d'enfants, on ne vivait pas ce processus-là, moi je l'imaginais à l'époque, mais en tout cas la pédagogie Steiner se présente comme une éducation vers la liberté. Alors ça me convenait plutôt bien comme point de départ, parce que précisément je pense que c'est fondamentalement là l'enjeu pour l'être humain que d'accéder à sa propre souveraineté individuelle, personnelle, et d'être véritablement qui on est, ou de devenir qui on est censé être. Donc c'est des questions qui portent davantage sur l'être et sur l'intériorité que sur des savoirs qu'on va accumuler et qui vont nous permettre d'être un bon rouage dans une société qui doit bien fonctionner sur divers plans, notamment économiques. Cette idée de pédagogie, d'éducation vers la liberté est absolument fondamentale. Ensuite, nos enfants sont nés, nos enfants sont allés à l'école Steiner, ils ont commencé par le jardin d'enfants. Et ça a été une aventure absolument passionnante, parce qu'on a découvert les trois règles de base du jardin d'enfants Steiner, les trois choses qui sont absolument fondamentales. La première chose qu'on fait dans un jardin d'enfants Steiner, la première chose, c'est de jouer. La deuxième, c'est jouer. Et la troisième, c'est jouer. Et pourquoi? Parce que le jeu est absolument formateur, il est fondamentalement constitutif de ce qu'on appelle l'imagination créative. Donc si on veut apporter tout un univers de créativité à l'enfant, il faut le faire jouer. Et puis Einstein disait qu'il faut lui raconter des contes. Et si on veut qu'il soit intelligent, il faut lui raconter des contes. Et si on veut qu'il soit très intelligent, il faut lui raconter encore plus de contes. Alors voilà, nous on a vraiment baigné là-dedans. On a découvert cette pédagogie cette fois-ci sous le volet pratique. On a apprécié que nos enfants soient pas téléguidés, mais qu'ils soient placés face à leur propre mouvement, face à leur propre geste intérieur. Il y a effectivement très peu d'activités qui sont guidées, qui sont orchestrées. L'enfant est dans le jeu libre. Donc il y a un ensemble de matériaux qui sont mis à sa disposition, la plupart du temps des matériaux naturels, et l'enfant va vraiment se saisir, il va peut-être prendre une petite table, la renverser, ça va devenir un bateau, il va voguer, il va trouver des pommes de pin, il va trouver des jouets en bois, il va trouver tout un univers qui va vraiment permettre d'aller vers l'autre dans le jeu. Et donc pas d'apprentissage intellectuel au jardin d'enfants Steiner, aujourd'hui encore. Et pour nous, ça a été un véritable miracle de voir que dans la vie, il y a un moment où les choses ne sont pas prêtes et où ne sont pas mûres, et il y a un moment où les choses sont mûres. Et précisément, on a vécu la maturité de nos enfants sur le plan intellectuel. C'est-à-dire qu'à un moment, on a pu observer avec nos quatre enfants qu'il y avait ce désir d'apprentissage. Ce désir d'apprendre, mais cette fois-ci avec sa tête, avec son intellect. Et nos enfants ne savaient pas lire pendant très très longtemps. En fait, on passe en première classe, c'est-à-dire qu'on commence le processus d'intellectualisation de l'enfant dans une école Steiner quand tout va bien à 7 ans. Alors ça paraît tard, aujourd'hui, ou dans une époque où on veut apprendre l'anglais à nos enfants à l'âge de 2 ans, en imaginant que ça va aller beaucoup plus vite dans leur processus, et où on veut bousculer les rythmes et les étapes d'apprentissage, attendre 7 ans pour commencer à intellectualiser l'enfant, à le mentaliser, ça paraît vraiment très très tardif. Mais j'ai toujours été capté par cette idée de Steiner qu'en réalité, l'enfant est dans un processus dans lequel il va s'édifier de façon progressive et il ne faut pas bousculer les étapes parce que les 7 premières années permettent la mise en place de l'être organique. Donc on va effectivement, l'enfant va se constituer de façon organique. Et l'idée de Steiner était la suivante. Naturellement, si on propose l'intellectualisation à l'enfant bien avant, l'enfant, il va suivre. Il n'y a pas de souci avec ça. Il va pouvoir commencer à apprendre les premiers mots, son nom, son prénom, les premiers bouts de phrases. Simplement, voilà autant de forces qui sont juste retirées. Retirées à quoi ? Retirées à d'autres processus d'édification organique. C'est-à-dire qu'en gros, on spolie un certain nombre de forces de croissance pour qu'elles soient dévolues à des processus qui, à cette époque-là, dans l'étape de développement de l'enfant, sont indus. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est l'idée de dire ben, tout ce qu'on aura pris comme force de croissance qui n'était pas, en principe, disponible pour ces processus-là, eh bien, quelque part, elles ne vont pas là où elles doivent être. Et on a vraiment vécu ça avec nos enfants, c'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que nos enfants étaient en retard d'écriture, de lecture et tout ça, mais au moment où c'est prêt, au moment où l'hiver est terminé et que le printemps arrive, alors la forêt va complètement se transformer en l'espace de quelques jours. On passe en bordure de forêt, il n'y a encore pas une seule feuille sur les arbres, on repasse 3 jours après, les feuilles sont là à foison. Et c'est ce qu'on a vécu avec nos enfants, c'est-à-dire que quand c'est prêt, c'est mûr, alors là, l'enfant va se jeter sur les apprentissages et en l'espace de quelques semaines ou quelques mois, il va rattraper complètement cette idée de pseudo-retard sur l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et ainsi de suite.
Et pour les 4 enfants, ça s'est passé de la même manière ?
Eh ben oui. Alors du coup, on est vraiment très content que l'école Steiner dans laquelle nos enfants sont allés soit une école hors contrat, avec l'éducation nationale. Alors, il y a des contreparties à ça, mais une chose est sûre, c'est que cette école de Colmar, Steiner de Colmar, a une vraie liberté d'éducation, une vraie liberté pédagogique qui fait qu'un enfant peut rester au jardin d'enfants jusqu'à ses 6-7 ans et qu'ensuite seulement commence l'école. Si l'école était sous contrat, ça ne serait pas le cas. Nos 4 enfants ont pu vivre ça et nous sommes vraiment très heureux que les enfants de Colmar, dans cette école, peuvent effectivement passer par un processus où on va leur laisser le temps et leur permettre d'acquérir ce qu'on appelle la maturité scolaire avant de les scolariser véritablement.
Donc en fait, ce que j'entends, c'est qu'à l'école Steiner, on laisse vraiment l'individu pouvoir se développer à son rythme, et c'est l'enfant qui va être en demande d'apprentissage, et c'est pas forcément comme dans le système scolaire classique, on va l'obliger à acquérir des compétences.
Oui, c'est-à-dire qu'à l'école Steiner, il y a un plan scolaire. Il y a véritablement un plan scolaire, donc année après année, jusqu'à la dernière classe, donc entre la première et la 12e classe, il y a un plan scolaire qui est suivi. Mais ce plan scolaire est véritablement calqué sur les étapes d'évolution de l'être humain dans son geste intérieur, dans ce que l'enfant et plus tard l'adolescent vit véritablement à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Donc effectivement, l'idée, c'est que l'enfant puisse être vraiment à la fois dans son rythme, mais également dans son geste intérieur. Donc chaque enfant est différent et chaque enfant est traité de façon différente. Et ce qui nous a... On pourrait vraiment parler des heures et des heures pour restituer des éléments qui ont été vraiment frappants pour nous. Une école Steiner, c'est une école dans laquelle des enfants peuvent grandir et apprendre, mais c'est aussi un formidable terrain d'apprentissage des parents. C'est-à-dire qu'on grandit, en fait, la famille grandit avec son enfant, et on découvre et on accède à des réalités, à des visions de l'enfant, de l'enfance, de l'humain, extrêmement intéressantes. cet aspect d'individualité est très important, mais ce qui est aussi très beau dans une école Steiner, de mon point de vue, c'est aussi cette idée de constellation de groupe. Donc c'est pas seulement l'enfant dans son individualité, d'ailleurs il y a des pédagogies qui poussent cette idée de l'individu très loin. Moi je trouve aussi que c'est très intéressant quand c'est nuancé avec l'idée que l'enfant est certes dans son geste intérieur et dans son individualité, mais en même temps dans un groupe. Donc ça veut bien dire que chacun amène sa couleur et qu'ensemble, on a quelque part, il y a une idée de destin commun qu'on va partager dans ces années de vie, qu'on va passer ensemble. Un élément absolument fondamental, c'est le fait que dans une école Steiner, la classe reste identique toutes les années. C'est-à-dire que le groupe reste forgé pendant et va vivre tout son processus scolaire ensemble. Il n'y a bien sûr pas de redoublement à l'école Steiner. Donc de la première à la douzième classe, les élèves se trouvent dans la même classe, donc dans le même groupe, donc dans la même constellation, ils vont vivre et ils vont évoluer ensemble. Mais il y a un autre aspect qui est très important, c'est que on parle de deux cycles à l'école Steiner, un cycle de 8 ans suivi d'un cycle de 4 ans. Et tout ça amène donc à former des jeunes qui, au moment où ils sortent de l'école Steiner, ont 18 ans. Mais sur le premier cycle, les 8 premières années, on a le même prof pendant 8 ans. Hein, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres intervenants dans la classe qui vont venir sur les différentes matières complémentaires, mais ça reste quand même que la classe, donc le groupe, cette constellation particulière, va être avec le même prof pendant 8 ans, hein, ce qu'on appelle le prof de classe. Et ça, c'est très, très intéressant parce que ça veut dire que le groupe va évoluer pendant toutes ces années et que le prof va évoluer avec le groupe, la classe, et la classe va évoluer avec le prof. Hein. Le prof va prendre 8 ans, va vieillir de 8 ans en vivant avec eux toute cette transformation-là. Et cette dimension de que chacun a sa place parce qu'ensemble, on forme un son particulier, on forme une couleur particulière. Et pour ça, il faut que tout le monde soit bien à sa place pour pouvoir former ça. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment cultivé dans une école Steiner. Et qui est cultivé au sens où on pense que c'est quelque chose qui donne une force, hein, la force du groupe humain, la force de la communauté humaine.
Donc c'est vraiment en termes de complémentarité. Chaque être est complémentaire à un autre. Il n'y a pas cette notion de compétitivité comme dans le système classique où on est noté et finalement divisé.
Bah oui, c'est vraiment ça. Et puis c'est aussi intéressant de voir globalement qu'une classe a une certaine couleur. Nous, on a eu 4 enfants. Les 4 sont passés par l'école Steiner. Notre aîné aujourd'hui qui a 18 ans se trouve en 12e classe. On a également notre fille qui a 16 ans qui est en 10e classe. Donc dans les grandes classes, on a notre troisième enfant qui va avoir 14 ans, qui se trouve en 7e classe, donc bientôt à la fin de son premier cycle. Et puis notre dernière est là en 3e classe, elle a 9 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est justement de bien réaliser que chaque classe a une couleur très très particulière. Et les classes sont très différentes, c'est-à-dire que quand on regarde les enfants individuellement, c'est une chose, mais quand on additionne tous les enfants, on arrive à quelque chose qui est encore supérieur à l'addition des uns et des autres. On arrive à une couleur, à une note particulière. Et c'était vraiment très frappant d'observer ça dans nos classes. Et ça, c'est complètement pris en compte.
Donc, il y a vraiment une observation de l'enfant, une observation de l'être, le prendre en tant qu'individualité et le tirer vers le haut, le pousser vers le haut en s'intéressant à lui.
Oui, ça, je pense que c'est vraiment la base d'une école alternative d'une façon générale, et puis a fortiori dans une école Steiner où c'est vraiment le point de départ, c'est vraiment une image de l'homme, hein, c'est une image de l'humain et d'un processus qui permet d'édifier l'humain. Ça, c'est vraiment très important, mais encore faut-il pouvoir le regarder, le percevoir, et puis ensuite d'amener les réponses qui sont nécessaires à ces différents développements, puisqu'il y a effectivement le développement organique. L'enfant va se développer dans sa chair, dans ses organes, ça c'est une chose, mais ensuite il y a effectivement d'autres développements, et notamment le développement émotionnel par exemple, le développement de l'esprit, le développement de l'intellectualité, un ensemble de choses qui doivent vraiment trouver leur nourriture au bon moment, de façon adaptée aux besoins de l'enfant, dans sa trajectoire à lui, dans son destin particulier à lui. Est-ce qu'on peut imaginer l'école en intégrant cette idée de destin? Ça, c'est vrai, une vraie question. Ça amène vraiment à regarder l'enfant en disant « Mais qui es-tu, toi, enfant qui m'est confié? Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir t'accompagner? Qui je dois être, moi, pour pouvoir t'accompagner, toi ?» Ça, c'est vraiment un élément très important. Et donc, ça suppose aussi le respect inconditionnel de l'être humain. Et ça suppose de le regarder dans toute sa grandeur d'être humain. Même si, à un moment donné, cet humain qu'on me confie est un protégé. C'est-à-dire que je suis adulte, pas au sens où je suis supérieur à l'être que j'ai en face de moi, mais au sens où j'ai un devoir de protection et d'accompagnement parce que l'être que j'ai en face de moi n'est pas encore autonome. C'est quand même très très différent comme préalable. L'autorité va s'exercer de façon très différente, évidemment. Et d'une façon beaucoup plus naturelle, dans la reconnaissance pleine et entière de l'être humain que j'ai en face de moi.
La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.